Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est à se demander pourquoi tous les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 30 ans utilisent autant les emplois aidés. Car à en juger par les propos tenus début août par la ministre du Travail à l'Assemblée nationale, il n'y a pas grand-chose à sauver de ces dispositifs. Pour Muriel Pénicaud, les emplois aidés ne sont ni efficaces pour lutter contre le chômage, ni performants pour favoriser l'insertion dans le monde du travail, et par ailleurs extrêmement coûteux. Depuis cette déclaration, les associations et les collectivités locales sont inquiètes. La baisse des contrats aidés, un coup de massue pour l'emploi des plus précaires, dénonce notamment le secteur de la solidarité. Car le gouvernement a confirmé son intention de réduire la voilure en passant de 459 000 contrats signés en 2016 à 310 000 cette année, avant une nouvelle baisse l'an prochain, tout en promettant d'ailleurs de mieux cibler les bénéficiaires. Cette polémique a au moins le mérite de questionner l'efficacité de ces emplois, apparus pour la première fois en France en 1984, sous le nom de travaux d'utilité collective, les fameux TUC. Alors à quoi et à qui sont-ils censés servir? Et les emplois aidés nuisent-ils à l'emploi? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Florent Guéguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, ex-FNARS, qui regroupe des dizaines d'associations de lutte contre les exclusions.
150
associations, avec d'autres organisations. Vous avez publié la semaine dernière un communiqué, baisse des contrats aidés, coup de massue pour l'emploi des plus précaires. C'est l'expression que j'avais retenue dans le lancement de cette émission. Pour discuter avec vous, José Faderinger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Rennes 1. Vous êtes par ailleurs membre du groupe de recherche pour un autre code du travail, le GRPACT. Et vous avez publié cette année chez Dalloz, qui est un peu la bible des professions juridiques, une proposition de code du travail, un code du travail considérablement allégé par rapport à celui qui existe déjà. Emmanuel Dauquès, qui a dirigé les travaux, était venu nous en parler. Ça vous fait un point commun, cette ambition de revoir peut-être le droit du travail avec notre troisième invité, Bertrand Bartineau, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque vous avez publié l'an dernier avec Franck Morel, chez Fayard, un autre droit du travail est possible. Bertrand Bartineau, vous êtes ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. C'était de 2008 à 2012. Vous avez également publié en 2015 chez Fayard, on le retrouve aujourd'hui dans la collection plurielle, pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a notamment un chapitre consacré à la drogue dure des contrats aidés. Alors pour entamer la discussion, peut-être pour que les choses soient à peu près claires pour tout le monde, je dis à peu près claires parce qu'on va voir que dans les acronymes successifs de l'histoire des emplois aidés, il est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mais José Faderinger, on peut peut-être commencer par expliquer en quelques mots ce qu'est un contrat aidé, c'est-à-dire en quoi il se distingue finalement d'un contrat qui n'est pas aidé.
Alors, première chose, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est un contrat aidé. Le Code du travail n'a pas ne prévoit pas de chapitre dans lequel on pourrait trouver les contrats aidés. En revanche, ce qu'on définit habituellement comme un contrat aidé, c'est un contrat de travail. Qui est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire qu'il va ouvrir certaines dérogations, notamment par rapport aux droits et avantages d'un salarié classique, et qui va ouvrir à des aides publiques, soit sous forme d'aides financières directes, soit sous des formes d'exonération de cotisations sociales.
On pourrait dire, Bertrand Bartineau, qu'il s'agit d'emplois subventionnés. C'est
oui,
les contrats aidés.
Oui, c'est leur point commun. Alors subventionner, ça peut être soit par des exonérations de charges sociales, soit par une aide directe auprès de l'entreprise ou de l'organisme, de la collectivité locale, etc. Donc c'est sur le budget de l'État dans tous les cas. Donc voilà, c'est le point commun à ces contrats aidés qui, comme vous l'avez rappelé, existent en fait depuis les années 80, depuis la forte poussée du chômage au début des années 80 et l'incapacité des gouvernements d'y faire face. Voilà, c'est ça l'histoire des contrats aidés. C'est aussi une spécificité française, puisqu'on a de loin de tous les pays de l'OCDE la proportion de politique de l'emploi consacrée à ces contrats la plus élevée donc de tous ces pays. Et les pays comme la Suède, enfin les pays scandinaves en général, qui recouraient beaucoup jusqu'aux années 90, ont arrêté cette politique.
497 000 personnes concernées fin 2016, ça ce sont les chiffres de la DARES, qui est l'institut d'études, disons, du ministère du Travail, une part qui n'est pas négligeable, José Faderinger.
Alors sur bon, moi en tant que juriste, je suis pas la spécialiste des chiffres, donc je laisserai ça plutôt à notre économiste.
Mais enfin, en tout cas, un demi-million, voilà, on voit que c'est quelque chose qui compte dans le marché du travail.
Compte principalement, et avec une faveur quand même pour le secteur non marchand qui comptabilise la plupart de ces contrats aidés, avec finalement une petite partie pour le secteur marchand, le droit privé. Et donc on se trouve en réalité avec un secteur associatif ou des personnes publiques qui recourent à ces contrats aidés soumis au code du travail.
Alors justement, le secteur non marchand, il est en partie représenté par vous ce soir, Florent Guéguin. Je rappelle que vous dirigez la Fédération des acteurs de la solidarité. Les contrats aidés, qu'est-ce que ça représente pour une fédération comme la vôtre ?
D'abord, je veux dire que la spécificité des contrats aidés, c'est qu'ils sont réservés aux personnes en difficulté qui, pour un certain nombre de raisons, n'ont pas accès au marché de l'emploi traditionnel. C'est-à-dire des personnes en difficulté, des chômeurs de longue durée. Et je rappelle qu'il y a environ 2,5 millions de personnes au chômage de longue durée, c'est-à-dire au chômage depuis plus d'un an, mais aussi sont bénéficiaires des jeunes sans qualification ou à qualification infra-bac, des seniors, des personnes de plus de 50 ans, pour lesquelles on sait que le retour à l'emploi, notamment lorsqu'il y a un problème de formation, est difficile. Donc, pour nous, ces contrats aidés sont un outil essentiel de remise en emploi de personnes en difficulté, souvent sous-qualifiées, pour lesquelles le marché de l'emploi traditionnel est fermé, pour lesquelles aussi, d'ailleurs, souvent, les entreprises ne veulent pas embaucher.
Bertrand Martineau, ce que vient d'énoncer Florent Guéguin, est-ce que vous considérez que c'est une description précise de la réalité aujourd'hui des emplois aidés, ou bien on est d'abord dans une question de principe, c'est-à-dire les emplois aidés devraient être justement à l'adresse de ce public-là, mais peut-être que c'est un public un peu plus large qui aujourd'hui y a accès.
Eh ben, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est-à-dire, Monsieur Guéguin donne la vision théorique, c'est-à-dire que ces emplois aidés, pour avoir une justification économique, devraient être ciblés vers les personnes qui vraiment n'ont absolument aucune chance, aucune probabilité dans l'année qui vient de retrouver un emploi de droit commun. En vérité, bon, il y a déjà des exceptions. Je rappelle que les emplois jeunes de Madame Aubry étaient ciblés sur des bac plus 2. Donc déjà, c'était pas des jeunes en plus grande difficulté. Et par ailleurs, ce principe qui est inscrit dans le Code du travail souffre en fait des exceptions en pratique. C'est-à-dire quand vous faites 100, 150 000 ou 200 000 emplois d'emplois aidés, vous pouvez cibler sur ces populations. Quand vous en faites, comme ça a été le cas sous le quinquennat précédent, 400, 500 000 par an, vous donnez l'ordre aux services de l'État, c'est-à-dire en fait au préfet et à Pôle emploi, de faire un maximum d'emplois sans trop regarder en fait au ciblage. Et donc vous avez une sorte de dilemme entre si vous en faites beaucoup, vous ciblez peu, et si vous en faites moins, évidemment, vous avez la possibilité de cibler. Mais en fait, ces emplois sont faits, comme vous savez, très dépendants du cycle électoral, et à l'avance de chaque élection, bien entendu, on en fait un maximum pour essayer de peser de manière d'ailleurs un peu illusoire sur les chiffres du chômage, et on ne regarde pas beaucoup au ciblage.
Alors, de manière un peu illusoire, ça c'est justement un des objets du débat qui a lieu aujourd'hui par rapport aux objectifs qui sont assignés à ces emplois aidés. Premier objectif, ça n'est pas le seul, hein, bien sûr, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais c'est avoir un impact sur les chiffres du chômage. Est-ce que d'abord, ça vous semble naturel et pertinent, Josefa Dieringer, d'envisager certains types de contrats en vertu de leur impact sur les chiffres de l'emploi ?
De manière générale, on retrouve à travers les contrats aidés une tendance plus générale qui est de modifier le droit du travail en espérant que ça va régler le problème du chômage. Donc à cet égard, effectivement, on peut avoir quelques doutes. En tout cas, pour ma part, je nourris quelques doutes. Et effectivement, il y a en réalité peu de réformes qui ont eu cet effet magique de régler la question du chômage.
Ouais, Ça rejoint évidemment le débat actuel sur la réforme plus large du droit du travail.
Hein. Sur le premier point. Sur le deuxième point, c'est effectivement quel est cet objectif et est-ce que cet objectif justifie un certain nombre de dérogations au droit du travail ou et tout simplement aussi que l'État intervienne sur le marché du travail pour subventionner certains emplois. Comme l'a dit Monsieur Guéguin, peut-être que effectivement certaines populations de catégories de salariés particulièrement fragilisées sur le marché du travail justifie cette intervention. Alors, certainement, les jeunes qui sont peu diplômés et en grande difficulté d'insertion sur le marché du travail, mais aussi les personnes en situation de handicap, hein, qui, je crois, correspondent à peu près à 10% des personnes qui bénéficient des contrats aidés. Bon, ce sont des personnes dont il y a un postulat qui est qu'ils seraient moins productifs que d'un salarié normal, donc il convient de les aider, d'aider les employeurs à les inciter à embaucher par des formes d'aide. Ça, c'est un autre objectif, en réalité, qui n'est pas tellement la lutte contre le chômage, mais qui est aussi, finalement, une intervention un peu protectrice de la puissance publique pour aider ces personnes qui sont en situation de grande précarité sur le marché du travail.
Alors, on va revenir, justement, dans un instant, sur cette dimension protectrice, mais peut-être quand même pour rester encore un petit instant sur l'impact que ça peut avoir sur les chiffres du chômage. Bah, vous, par exemple, Florent Guéguin, par rapport donc à cette fédération des acteurs de la solidarité, est-ce que... Alors, je vais vous poser la question autrement, mais est-ce qu'en l'absence de ces dispositifs de contrats aidés, vous ne pourriez pas faire travailler autant de personnes qui se retrouveraient, du coup, dans les statistiques de Pôle emploi ?
Bien sûr. La décision du gouvernement de supprimer, à ce stade, 140 000 emplois aidés, ça veut dire des dizaines de milliers de personnes qui, demain, vont se retrouver sur le carreau, c'est-à-dire pour lesquelles... le contrat va se terminer, pour lequel il n'y a aucune solution de substitution qui est proposée par l'État en termes d'activité. Et ce sont des personnes qui, finalement, vont rejoindre le système d'assistance, c'est-à-dire qui avaient un emploi, alors certes, un emploi subventionné, mais qui avaient une activité, souvent d'ailleurs une reconnaissance à travers cette activité, souvent d'ailleurs une formation, en tout cas l'acquis d'une expérience à travers cette activité, et qui, du jour au lendemain, vont voir cette activité cesser et vont retourner au RSA, à l'ASS, c'est-à-dire dans un système d'assistance sans reprise d'activité. Donc pour nous, cette décision, elle est scandaleuse et désastreuse. Et elle est en plus, c'est à la fois une erreur sociale pour les personnes, hein, puisque, encore une fois, arrêter un contrat pour une personne qui reprend une activité, c'est désastreux sur un plan personnel, mais c'est aussi pour nous une erreur économique. Parce que, encore une fois, nous sommes dans une situation de chômage de masse. Ces contrats aidés participent à la lutte contre le chômage de masse, notamment pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Et si on réduit ces contrats aidés, ça fera plus de chômeurs de longue durée dans la société.
Ah, parce que vous nous dites que c'est aussi une question économique. Et puisque nous avons un économiste en la personne de Bertrand Martineau, est-ce que vous partagez le point de vue de Florent Guéguin ? Et autrement dit, est-ce que par ailleurs on peut dire que voilà, moins de contrats aidés, des suppressions de contrats aidés, c'est davantage de chômeurs.
Alors, il faut revenir, plusieurs choses ont été dites. En fait, le problème de ces contrats aidés, sur lesquels on a quand même beaucoup de recul statistique maintenant, et on peut pas dire que les politiques de l'emploi sont peu évaluées. La vérité, c'est qu'elles sont beaucoup évaluées, mais qu'on tient pas beaucoup compte des évaluations, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc c'est une politique qui a été énormément évaluée. En fait, le problème de ces contrats, c'est qu'ils ont trois objectifs, en fait. Le premier objectif, c'est de piloter la liste, enfin, de manière illusoire, à mon avis, hein, la liste des demandeurs d'emploi. Bon, si on arrivait à piloter la liste des demandeurs d'emploi, je pense qu'on s'en serait aperçu, on n'aurait pas...
Ça veut dire quoi, piloter la liste des demandeurs d'emploi?
C'est-à-dire essayer de peser sur les chiffres mensuels des demandeurs d'emploi. Voilà. Or, ces chiffres, comme vous le savez, obéissent à tellement de déterminants que, de toute façon, les malheureux contrats aidés peuvent pas grand-chose. Et si ça pouvait impacter le chômage massivement depuis 30 ans, je pense que quelqu'un s'en serait aperçu.
Je vous laisserai poursuivre après, mais je vais juste citer un extrait d'une note confidentielle qui est évoquée par Alternative Économique dans ses derniers numéros, un article très intéressant d'ailleurs, justement sur les emplois aidés. Note qui vient d'un organisme que vous connaissez bien, Bertrand Martineau, la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, donc que vous avez dirigé il y a quelques années de ça, et qui dit ceci: les emplois aidés sont un des outils les plus efficaces pour diminuer à court terme le chômage.
Ben oui, enfin, je sais pas à quelle étude économique sérieuse il se réfère. Alors, j'en arrive au deuxième objectif, c'est l'objectif. Alors, le pilotage de la liste, le premier objectif, il obéit au cycle électoral. C'est-à-dire, vous regardez à chaque fois qu'on freine les contrats aidés. Hein, je vais pas reprendre la liste, mais c'est en 2002, en 2012, en 2003, en 2007 et en 2017. C'est-à-dire juste après une année électorale, hein, on diminue les contrats aidés, et avant chaque année électorale, évidemment, on fait des contrats aidés. 2016, 2012, 2002.
Voilà, bah, c'est donc, bien parce si que ça a un impact sur les chiffres du chômage.
Mais parce que les politiques croient avoir que ça a un impact massif sur les chiffres du chômage. En vérité, vous avez bien vu, le malheureux monsieur Hollande, que ça ne lui a pas énormément profité. Donc le deuxième objectif est un objectif, j'allais dire, d'intérêt général, qui est l'insertion. Et là, vous avez des dizaines d'études économiques en France et à l'étranger, en particulier en Scandinavie, dans les pays anglo-saxons également, des dizaines d'études qui ont été rassemblées. Une encore, d'ailleurs, de la DARES, il y a encore quelques mois. La DARES, qui est ça a été à l'époque fait par le gouvernement socialiste, la DARES ne publie rarement des choses qui sont totalement hostiles au gouvernement. Et la DARES expliquait, si le passage en contrat aidé du secteur marchand semble avoir un effet positif sur la reprise d'emploi, les contrats aidés du secteur non marchand semblent plutôt, au vu des études existantes, réduire les chances d'être en emploi non aidé après la fin du contrat. Et cette étude de la DARES rejoint les cohortes d'études qu'on a, c'est-à-dire que par rapport à des personnes de caractéristiques socio-économiques semblables, ces contrats aidés ne permettent pas une insertion durable dans l'emploi et même dans certains cas diminuent les chances ultérieures. Donc ça, c'était le deuxième objectif raté. Ensuite, il y a un troisième objectif. Alors celui-là, il n'a rien à voir. C'est aider le financement d'un certain nombre de collectivités publiques ou parapubliques, par exemple les ressortissants de la FNARS. Et là, effectivement, donc vous avez l'éducation nationale aussi, qui est sous contrainte budgétaire et qui est bien contente d'avoir des auxiliaires pour aider les enfants à traverser, par exemple, les routes, etc., de traverser la route en sécurité, ou ramasser les feuilles dans la cour d'école, ou jardiner. Vous avez donc des soutiens à des petites collectivités locales qui ont des grandes difficultés financières, et vous avez des soutiens en fait à des associations souvent fragiles, notamment dans le secteur sanitaire et social, pour lesquelles les contrats aidés sont un ballon d'oxygène très important. Mais là, on n'est plus vraiment dans la politique de l'emploi, on est dans autre chose, qui est le financement d'une partie de l'économie publique et parapublique.
Alors donc trois objectifs, dont le troisième est peut-être pas le plus assumé, en tout cas ouvertement, mais lutter contre le chômage, favoriser l'insertion sur le marché de l'emploi et soutenir l'activité, notamment les collectivités locales et le secteur associatif. Ça nous fait encore un certain nombre de thèmes pour la suite de la discussion, puisqu'on a beaucoup évoqué depuis le début cette question de l'insertion. Avant de revenir vers vous, Josepha Dieringer, je voudrais poser une question à Florent Guéguin sur justement cette étude que mentionnait Bertrand Martineau par rapport à l'insertion durable des gens qui bénéficient de contrats aidés dans le secteur non marchand. Il y avait une enquête qui a été faite auprès des bénéficiaires 6 mois après la fin des aides. Et dans le secteur non marchand, ils sont seulement 41% à avoir un emploi. Est-ce que pour vous, c'est le signe que ces emplois aidés fonctionnent mal? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est le signe qu'ils sont nécessaires parce que sans ces emplois, ces gens-là ne trouvent pas de travail?
Puisqu'on cite cette étude, il faut la citer complètement. D'abord, cette étude, elle dit, contrairement à ce que dit Monsieur Martineau, que les emplois aidés sont bien ciblés vers les personnes les plus en difficulté. À 80%, hein, les emplois aidés sont utilisés par des personnes que j'ai citées, chômeurs de longue durée, jeunes décrocheurs sans qualification, seniors de plus de 50 ans. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'effet d'aubaine, ou en tout cas, c'est tout à fait marginal. Cette étude, elle dit aussi que pour le secteur marchand, au bout de 6 mois, 67% des personnes qui retrouvent un emploi. Or, je constate que parmi les annonces du gouvernement, tous les contrats aidés dans le secteur marchand, donc ceux qui fonctionnent le mieux du point de vue de la reprise d'emploi, sont supprimés. Curieux. Curieuse décision.
Peut-être justement parce qu'il y a un effet d'aubaine et que sans ces contrats, les gens auraient quand même un emploi.
Il y a un effet d'aubaine du fait que, dans un certain nombre de cas, l'emploi aurait quand même été créé. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que c'est l'effet profil, c'est-à-dire que ces contrats aidés, encore une fois, ils permettent à des personnes en grande difficulté d'accéder à l'entreprise, à des emplois aidés dans le secteur marchand, alors qu'ils n'auraient aucune chance d'y accéder, je dirais, sans ces dispositifs particuliers, du fait notamment du plafond de verre qu'on observe dans les entreprises pour les personnes qui ont pu avoir des difficultés sociales, un manque de formation, des problèmes de santé, etc. Parce que c'est ça, le public aujourd'hui bénéficiaire des emplois aidés. Sur la question du secteur non marchand, c'est vrai que les chiffres de retour à l'emploi 6 mois après sont moins bons que pour le secteur marchand. Nous, on l'explique, et la DARES le dit aussi par plusieurs raisons. D'abord, le profil, je dirais, des recrutements, notamment dans les associations, est plus social. C'est-à-dire que nous,
et sont des personnes en grande difficulté, qui de toute manière ont du mal à aller vers l'emploi.
Vous avez vraiment des personnes qui sont en grande difficulté, qui ont beaucoup de problèmes à régler avant d'être, je dirais, avant de pouvoir postuler sur le marché de l'emploi ordinaire, des problèmes de santé, des problèmes de qualification, des problèmes de droits sociaux, etc. Donc, le profil social est plus fort et plus intense, donc les résultats en termes de retour à l'emploi de droit commun sont moins bons. Et puis aussi, les associations ont du mal à pérenniser les emplois. Puisque quand le contrat aidé s'arrête, et c'est aussi une des difficultés de la décision prise par le gouvernement, c'est que autant une entreprise, elle arrive souvent à pérenniser son emploi, et du coup la personne qui est en contrat aidé bascule ensuite sur un emploi de droit commun, autant dans les associations, c'est plus difficile de pérenniser une activité sur fonds propres quand le contrat aidé s'arrête. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles le retour à l'emploi est moins bon. La dernière chose, il faut aussi regarder l'ensemble des activités qui sont menées par ces contrats aidés. C'est de l'accompagnement des personnes handicapées, c'est de l'aide alimentaire, c'est des interventions dans les centres d'hébergement pour les personnes sans-abri. Ce sont un grand nombre d'activités à très forte utilité sociale qui vont disparaître du fait de la disparition de ces emplois.
Ce sont des activités, Josefa Dieringer, qui sans justement ces dispositifs dérogatoires auraient du mal à exister, ou bien est-ce qu'on pourrait imaginer que bah, finalement, à partir du moment où on travaille, on est assujetti à un même type de contrat de travail, on fusionne tout et il n'y a pas de raison de finalement d'avoir des niveaux finalement de protection aussi, parce que ce sont pas des contrats qui offrent exactement les mêmes protections qu'un CDI classique.
Oui. Alors avant de répondre à votre question, je voulais quand même réagir sur effectivement le fait que la DARES effectivement rappelle quand même l'effet à court terme de la création d'emplois. Mais qui traduisent le fait que ce sont une solution d'attente, qui sont censées attendre le retour de l'efficacité d'autres mesures comme le CICE, comme des réformes plus structurelles. Et finalement, à force de voir l'absence d'effet de ces réformes structurelles, on a pérennisé cette solution d'attente qui devient finalement durable.
Qui coûte pas d'ailleurs forcément beaucoup plus cher, peut-être même plutôt moins cher que le CICE ou que les baisses de charges sociales,
oui,
par exemple.
Oui, oui. Enfin, le CICE a coûté relativement cher.
Oui, c'est ce que je dis. Donc oui, les emplois aidés sont plutôt moins coûteux.
Oui, oui. En termes de oui, oui, c'est moins coûteux, mais ça reste quand même.
Vous avez raison de le souligner, parce que l'un et l'autre, la ministre nous dit que ces dispositifs coûtent très cher. Enfin, bon, les exonérations de charges sociales sur les emplois au SMIC, qui là, pour le coup, provoquent des effets d'aubaine massifs, c'est-à-dire qu'il y a des exonérations de charges, alors qu'on sait que les entreprises auraient quand même recruté. Ça, c'est 36 milliards d'euros par an. Le CICE, qui a créé très peu d'emplois, on dit 100 000 emplois créés, c'est 22 milliards d'euros par an. Les emplois aidés, qui bénéficient aux plus pauvres, c'est un peu moins de 3 milliards d'euros. Donc pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il en priorité, s'il doit faire des économies, à ces dispositifs?
Juste un mot, vraiment un mot de Bertrand Martineau sur le coût, et je vous promets que je vous laisse poursuivre, Josefa Dieringer.
Alors, bon, déjà...
brièvement,
mais je veux juste rebondir sur le côté insertion. Bien entendu, les études qui ont été faites en France comme à l'étranger comparent ce qui est comparable. C'est-à-dire, ils ne comparent pas des gens qui sont dans des contrats aidés non marchands, qui sont en très grande difficulté sociale, avec des gens qui ne seraient pas en difficulté. On prend des gens qui ont les mêmes caractéristiques. Et on s'aperçoit, inévitablement, vous avez des dizaines d'études économétriques sur le sujet, qui montrent que, au mieux, ces contrats ne changent rien à la trajectoire des personnes, c'est comme ça. Au mieux, au pire, ça diminue, c'est le cas en France, ça diminue les chances d'obtenir un emploi durable sur plusieurs années. Alors maintenant, sur le coût, on arrive sur un sujet important, le coût d'un emploi d'avenir, par exemple, c'est à peu près 12 000 euros par an. Bon. Donc, on peut se poser la question de savoir si c'est utile, efficace, etc. Bon, j'ai ma petite idée, vous avez bien compris, je pense que c'est pas très efficace. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec 12 000 euros? C'est énorme, 12 000 euros. Un apprenti, ça coûte 8 000 euros aux finances publiques. À peu près 8 500 euros. Bon, là, vous avez un dispositif qui a massivement cannibalisé l'apprentissage.
et qui coûte plus cher que l'apprentissage et qui est beaucoup moins insérant que l'apprentissage. Donc, il faut
qui
quand
coûte peut-être moins cher que le chômage, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui est au chômage et qui va...
Parce que vous partez du principe que la personne qui n'aurait pas été en contrat aidé aurait de toute façon été au chômage et ne s'en serait jamais sortie. C'est ça le postulat.
C'est tout le débat justement sur l'efficacité
Il aurait peut-être bénéficié de formation, d'apprentissage, de choses comme ça, qui auraient été plus efficaces.
Alors, Josepha Deringer, promis, je vous interromps plus.
Donc, une fois qu'on a critiqué, enfin contesté l'efficacité limitée à court terme de ce dispositif, il me semble qu'il y a des choses. De mon point de vue, ce n'est pas en soi, par essence, les contrats aidés qui sont inefficaces. Le contrat d'apprentissage est un contrat aidé pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de définition juridique. Il ouvre droit à des aides publiques, il ouvre droit à des exonérations de cotisations sociales, il ouvre droit à des dérogations par rapport aux règles communes du droit du travail. Les contrats de professionnalisation sont des contrats aidés. Donc en réalité, c'est pas le contrat aidé qu'il faut supprimer, c'est certains dispositifs tels qu'ils ont été pensés, peut-être renforcer la dimension qui existe déjà, peut-être pas suffisamment, la dimension de formation qui doit être inclue dans ces contrats. Mais donc, c'est pas le principe même du contrat aidé qu'il faut, l'aide financière éventuellement qui en soi pose problème, encore que la question de l'efficacité économique peut être être interrogée.
L'objectif prioritaire, ça doit être quoi, Josepha Deringer, par rapport à ces contrats aidés? Ça doit être justement de ramener un public éloigné du marché du travail vers le travail.
Mais
est-ce que c'est ça d'abord qui doit compter?
Pour répondre à la question que vous m'aviez posée initialement, c'est à mon sens, le fait que l'État intervienne pour subventionner certains emplois et certains secteurs, notamment le secteur marchand, ne justifie pas les dérogations, le fait qu'on prive des salariés qui sont les plus précaires, encore une fois, c'est le public très fragilisé, des garanties qui sont reconnues au principe aux salariés. Ces contrats aidés, les salariés ne disposent pas de la prime de précarité. De manière générale, sauf très exception les CDD seniors, ils sont privés de la prime de précarité, alors que précisément ce sont les salariés les plus précaires. Ces contrats aidés ne sont pas décomptés dans les effectifs des entreprises, ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel, mais on s'est fait taper sur les doigts par la Cour de justice comme étant contraire aux droits de l'Union, parce qu'en réalité on crée des différences de traitement entre salariés au nom de ces publics ciblés qui, encore une fois, certes, doivent faire l'objet d'une attention particulière des politiques de l'emploi, mais on les prive de certains droits sociaux, de certains droits prévus par le Code du travail, avec ce principe qu'il faut lever certaines contraintes sur les employeurs pour inciter ces derniers à embaucher ces publics jugés moins productifs, parce que en situation de handicap, parce que moins diplômés, parce que jeunes, etc. Cette justification, pour ma part, me paraît très largement discutable.
Alors, je vous rappelle la question que nous posons ce soir. Il nous reste encore une grosse dizaine de minutes pour débattre de notre sujet du soir. Les emplois aidés nuisent-ils à l'emploi? Et je voudrais vous faire écouter une petite archive. C'est assez court, vous allez voir. Ça date de 1984, donc création des TUC, travaux d'utilité collective. Les TUC qui ont beaucoup été moqués par la suite. Il faut dire que parfois, ils étaient appliqués dans des domaines assez, disons, inattendus. Écoutez ce reportage d'un journal de France Inter. Nous sommes en décembre 1984.
Les TUC on the Rock, les TUC, ce n'est pas un nouveau groupe de rockers, ce sont, vous le savez, les travaux d'utilité collective, et Jack Lang, le ministre de la Culture, a annoncé hier soir que dans ce secteur aussi, certains jeunes pourront pendant quelque temps au moins y trouver du travail. C'était au Gibus, le célèbre temple rock de Paris, à l'occasion de la publication d'un ouvrage de 200 pages qui est en passe de devenir la véritable bible de tous ceux qui veulent faire du rock. Comme certains s'étonnaient de la présence du ministre de la Culture en un tel lieu, Jack Lang a simplement répondu « et pourquoi pas ?». Voici le témoignage d'un des musiciens du groupe Trista Motive qui vient de sortir son premier 45 tours et espère bien se faire un nom dans le showbiz.
Le rock, c'est quand même une manière d'améliorer notre vie et c'est pour ça que ça a autant de succès.
Alors, les TUC, les travaux d'utilité collective, ça peut apporter un peu de beurre dans les épinards pour les rockers. Alors, je vous dis la somme, ça se traduit en fait par 1700 francs par mois pour 20 heures de travail par semaine. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
Une dizaine de jeux de cordes. Non, c'est bien, c'est déjà pas mal, je crois. 1700 francs.
Voilà, extrait d'un journal de France Inter, donc fin 1984, quelques semaines après le lancement, quelques mois après le lancement des fameux TUC. Alors bon, évidemment, c'est un extrait, un reportage qui fait sourire, mais ça permet de reparler de cet aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, que je voudrais qu'on aborde maintenant, qui est celui de ce soutien à l'activité qui existe à travers les emplois aidés, soutien à l'activité, ou pourquoi pas création d'activité. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant, Florent Guéguen, ou bien est-ce qu'il y a une forme quand même de détournement de ce que devraient être ces contrats, c'est-à-dire vraiment s'adresser à un public très spécifique?
Il est clair que ces contrats aidés aujourd'hui participent au développement social et économique d'un certain nombre de territoires qui, pour diverses raisons, ont perdu des emplois, ne sont plus en capacité de créer des emplois. Je pense à la fois à des quartiers politiques de la ville, où il y a des taux de chômage très importants, mais aussi à des zones rurales où l'emploi a disparu, à des zones touchées par la disparition des emplois industriels. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les élus locaux montent au créneau pour défendre ces emplois, bon, il y a évidemment l'idée de défendre des emplois qui sont liés à la mairie ou au département, mais c'est aussi parce qu'ils vont perdre des emplois sur leur territoire, des emplois à la fois d'utilité sociale, mais qui étaient accessibles à la population qui vit dans les quartiers, y compris à la population la moins qualifiée, encore une fois, celle qui n'accède pas au marché de l'emploi ordinaire. Donc,
et d'ailleurs, ils vont d'autant plus au créneau aujourd'hui que c'est la rentrée scolaire et qu'il y a un certain nombre de mairies qui sont inquiètes de savoir s'ils vont pouvoir réembaucher des contrats aidés.
Honnêtement, sur certains territoires, la disparition de ces emplois aidés sont une catastrophe sociale pour les personnes, une catastrophe économique pour les élus locaux, parce que ce sont des activités d'utilité sociale qui disparaissent. Je pense par exemple au secteur de l'aide à la personne, des personnes qui interviennent dans les maisons de retraite, dans le soutien à domicile, dans les zones rurales. C'est ce type d'emplois qui sont des emplois d'utilité sociale, des emplois non délocalisables, donc qui ne sont pas soumis à la concurrence, qui vont disparaître. Donc c'est catastrophique à la fois pour les personnes, mais aussi pour des activités qui vont disparaître sur des territoires qui en ont beaucoup besoin.
Justement, Bertrand Martineau, prenons l'exemple des emplois de services à la personne. Donc, un certain nombre d'emplois qui ont pu être créés grâce aux emplois aidés. Ce sont des emplois qui répondent à un véritable besoin. Comment est-ce qu'on fait si on supprime le dispositif des emplois aidés? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on finance? Comment est-ce que les collectivités financent ce type d'emploi? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une sorte d'aggiornamento pour que on essaie de financer peut-être plus directement ce type de travail? Comment est-ce qu'on sort de cette...
Il y a, dans toute cette discussion, il y a un présupposé qui est que l'existence d'un besoin social avéré doit entraîner une subvention et un contrat dérogatoire. C'est un postulat qui, excusez-moi, peut être contesté. Donc, s'il s'agit de personnes en très grande difficulté, par exemple, des personnes qui ont un handicap, moi je ne suis pas du tout partisan de diminuer les contrats aidés sur les personnes en situation de handicap. Donc, il y a des situations extrêmement particulières. Mais on ne peut pas poser comme postulat qu'on a besoin d'aide de services à la personne, dont contrat aidé. Et pourquoi donc? Pourquoi est-ce que les services à la personne ne seraient pas un secteur économique à peu près normal, avec des mécanismes économiques à peu près normaux? Un boulanger rend également un service public d'une certaine manière, et personne ne pense à subventionner le boulanger.
Parce que vous avez des activités non rentables.
Mais pourquoi les services à la personne en France seraient le seul pays du monde où c'est pas rentable?
Qui ont des difficultés de financement et qui font que ces activités d'utilité sociale vivent en partie de ces contrats, et si l'État les supprime, alors il faut que l'État trouve une compensation.
On peut imaginer une situation économique à peu près normale, à peu près rationnelle, dans laquelle on aide les personnes, par exemple les personnes âgées, et d'ailleurs ça se fait, on peut peut-être le faire plus, à se procurer des services marchands normaux sur un marché normal. Pourquoi subventionner des collectivités locales? Pourquoi subventionner des associations qui ne sont pas rentables, alors qu'il y a des mécanismes économiques qui ne sont pas du tout des mécanismes esclavagistes ou sauvages, qui permettraient d'obtenir une meilleure performance économique et un moindre coût pour les finances publiques? Je crois que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir.
Joseph Adieringer.
Ça nous embarque dans une discussion de ce qu'est le service public et de la place de l'État et des pouvoirs publics dans finalement l'organisation des besoins sociaux. Et donc lorsque l'on est attaché à effectivement une mission de service public, détaché de tout souci de rentabilité, mais en considérant quand même que ça a une valeur sociale, alors il importe de financer d'une manière ou d'une autre, donc pas par le marché, par quelque chose qui est non marchand, et donc c'est effectivement la puissance publique et donc l'impôt qui intervient pour subvenir à l'organisation de ces activités.
Mais pas forcément dans le cadre
d'un contrat. Après, la manière dont les pouvoirs publics assurent ces activités, c'est tout simplement aussi la manière dont on est dans une logique de restriction des dépenses publiques, des subventions à l'égard des collectivités territoriales et aussi des associations, qu'elles soient culturelles, sportives, etc. Qui auraient pu être directement allouées à ces associations et ensuite les laisser libres d'organiser la manière de recruter leurs salariés conformément au droit commun. Bon, là, il y a des politiques de contrat aidé qui est une forme de subvention. Bon, encore une fois, on peut discuter de l'efficacité de ce dispositif sur le chômage, mais le fait que la puissance publique intervienne et finance certaines activités qu'elle considère comme non marchandes, moi personnellement, j'y suis attachée et je pense qu'il importe que cela reste hors marché.
On voit à quel point justement ça suppose aussi un débat qui est un débat politique qui est beaucoup plus large, qui va bien au-delà justement de la spécificité de ces contrats, Florent Guéguin.
Oui, bien sûr. Je crois aussi, parce qu'on a peu parlé finalement de la question de l'importance de l'emploi pour les personnes en grande difficulté. Parce que c'est quand même le cœur du sujet. Et c'est ce qu'apportent ces contrats aidés aujourd'hui. Moi, je suis quand même sur un plan politique. Je suis quand même un peu surpris que des ministres comme Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin, qui fustigeaient l'assistanat, qui dénonçaient les allocataires du RSA, qui ne travaillaient pas assez, qui ne se mobilisaient pas pour rechercher un emploi, sont les ministres aujourd'hui qui supprime les contrats qui sont destinés aux allocataires du RSA. C'est-à-dire que on est dans un système où finalement on renvoie vers l'assistance sans activité des personnes qui aujourd'hui sont en activité d'utilité sociale, même si on est dans un champ qui est, ça a été dit, largement non marchand et qui doit être soutenu d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics.
Bertrand Martineau. Sur cet aspect que vient d'évoquer Florent Guéguin.
Encore une fois, il y a dans l'économie des services qui ne sont pas suffisamment solvabilisés. Donc il faut aider via des crédits d'impôt, via des subventions, etc. aux personnes.
Mais s'analyser au prisme de l'économie.
Si les contrats aidés sont une politique destinée à faire baisser le chômage depuis 30 ans ou depuis 40 ans, je pense qu'on s'en serait rendu compte.
C'est une politique qui consiste à revaloriser des personnes qui sont à l'écart.
Solvabiliser des secteurs de l'économie dont on dit que le marché ne les rend pas rentables spontanément, dans ce cas-là, regardons si c'est efficace et regardons s'il n'y a pas de meilleure façon de solvabiliser une demande. Et je ne pars pas pour principe que les aides aux personnes âgées, qui par ailleurs ont souvent du patrimoine et peuvent aussi parfois se solvabiliser, il ne faut pas croire non plus que les personnes âgées sont toujours totalement démunies face à la dépendance, on peut imaginer les assurances dépendance aussi. On ne peut pas partir de principe que les contrats aidés sont un très bon, sont un très bon mode de financement d'une partie de l'économie soi-disant non solvable.
Bon, peut-être se dire qu'au moins le débat actuel aura pour vertu de repenser ce que doit être la place des contrats aidés, des emplois aidés dans la politique de l'emploi et plus largement dans une politique sociale d'insertion. Merci en tout cas.
Merci.
Beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Josepha Deringer, donc je renvoie à votre proposition de code du travail. Vous n'êtes pas seul à avoir participé à cet ouvrage sous l'égide du groupe de recherche pour un autre code
code du travail. C'est publié chez Dalloz. Bertrand Martineau, pour en finir avec le chômage et un autre droit du travail est possible, deux ouvrages publiés chez Fayard l'an dernier et en 2015. Et Florent Guéguin, vous avez interpellé Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, d'ailleurs, dans votre tribune. Vous allez être reçu, vous avez une réponse?
Écoutez, on l'espère, et avec mon président qui est Louis Gallois, on va se battre pour défendre ces dispositifs, ou en tout cas qu'il y ait une contrepartie proposée aux personnes qui aujourd'hui bénéficient de ces emplois.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richet, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny.